Le lendemain matin, Sylvec n'eut pas vraiment le loisir de s'inquiéter de la décision qu'elle avait à prendre. Tout d'abord, elle se réveilla tard, et, après un instant à se demander où elle se trouvait et quel était ce lit étranger en ouvrant les yeux, elle aperçut qu'elle était roulée en boule autour de Thrall qui dormait encore à point fermé. Elle sourit en constatant qu'ils avaient tous les deux puisé du réconfort dans la présence de l'autre, en s'endormant collés comme des renardeaux. Elle resta un moment sans bouger pour ne pas déranger son compagnon. Ils avaient parlé ensemble de tout et de rien une grande partie de la nuit, au point qu'à la fin Sylvaig en avait eu la voix tout enrouée. D'ailleurs, en déglutissant, elle se rendit compte que sa gorge était toujours un peu douloureuse. Elle roula doucement hors du lit, prit son apparence de deux pattes et s'étira longuement. En jetant un bref coup d'œil dehors, elle estima qu'il était encore tôt dans la matinée. En s'approchant de nouveau de son amie, elle vit un étrange objet sur le lit. Il avait certainement roulé hors de la poche de Thrall lorsqu'il avait sa forme humanoïde. Curieuse, elle s'en empara subrepticement, sans le réveiller. De ce qu'elle pouvait estimer, il s'agissait d'un os de la taille d'un doigt, taillé en forme de crochet. Il était finement ciselé de feuilles et boules de gui. Elle le manipula un moment en se demandant à quoi il pouvait bien servir, ou ce qu'il signifiait. Cet os ne ressemblait pas vraiment à quelque chose d'utilitaire malgré sa forme de crochet. De plus, elle doutait qu'il s'agisse d'un objet pour faire du crochet. Elle imaginait mal Thrall avec sa petite pelote de laine en train de crocheter des bonnets ou des écharpes. En voulant se diriger vers la fenêtre pour inspecter l'objet à la lumière, Sylvaig passa devant la porte. Elle sursauta, oreille dressée, en entendant un cliquetis et vit le battant s'ouvrir. Elle recula, pensant que quelqu'un allait entrer. Il n'y avait personne. Ses instincts de renard prirent rapidement le dessus sur sa surprise et elle profita aussitôt de l'occasion. Elle risqua le bout de son nez dans le couloir et ne voyant pas âme qui vive, s'y aventura, les mains crispées sur l'os sculpté. À pas de velours, elle fit quelques pas en direction d'une porte de l'autre côté du corridor. Comme elle lui tournait le dos, elle ne vit pas le battant de sa chambre se refermer. Sylvaig sursauta une nouvelle fois en entendant le clic qui signalait la fermeture. Elle prit une lente inspiration pour calmer les battements de son cœur. Le plus silencieusement possible, elle s'approcha pour coller son oreille à la porte de l'autre côté du couloir, mais cette dernière s'ouvrit comme de son propre chef. La vanne contempla le petit os. Cela pouvait être ennuyeux s'il ouvrait toutes les portes dès qu'elle s'approchait trop. Elle pouvait facilement se faire repérer si elle entrait dans une pièce occupée sans y prendre garde. De toute façon, la renarde n'avait pas l'intention de visiter la demeure de Loki. Elle décida de trouver la sortie le plus rapidement possible. Une fois dehors, elle aviserait. Tout en se dirigeant au hasard du corridor, elle pensa brièvement à Thrall, qu'elle avait très envie d'aller chercher pour partir avec lui. À cause du choix cruel que lui avait imposé Loki, elle savait qu'il ne voudrait pas s'enfuir avec elle. La mort dans l'âme, elle le laissa donc à son destin d'esclave éternel et continua son avancée dans la maison de Laz. Elle se promit néanmoins d'en parler à Odin si elle en avait l'occasion. Elle n'avait pas fait trois pas supplémentaires que des bruits de pas et de voix la surprirent. Sylvaig se précipita vers une porte qui bordait le couloir au hasard. Comme les autres fois, elle s'ouvrit toute seule et la renarde fit quelques pas dans la pièce pour que le battant se referme. Elle tendit l'oreille pour surveiller les pas, mais plus aucun bruit ne parvenait jusqu'à elle. Un frisson la saisit. La renarde réalisa que la température de cette salle était bien inférieure au reste de la demeure. Balayant rapidement la pièce du regard, elle supposa qu'il s'agissait d'une salle des trophées. Des objets plus ou moins exotiques paraient les murs et ornaient les piédestaux un peu de partout. Curieuse, elle commença à visiter l'endroit. Comme il faisait froid, Sylvaig supposa que Loki avait entreposé le cœur d'Ul ici, à l'instar de tous ses autres trophées. Elle se mit alors à le chercher, espérant devenir l'héroïne du jour en ramenant le précieux organe à ses compagnons. Elle trouva rapidement un coffret duquel un froid perçant émanait, la faisant encore frissonner. Sans réfléchir, elle se précipita vers la cassette dans laquelle elle supposa que Laz avait transféré l'organe gelé. Le coffre s'ouvrit à son approche et un souffle glacé en jaillit brutalement, enveloppant la jeune fille. Elle se protégea vivement le visage avec ses avant-bras, tandis que la bourrasque gelée l'enveloppait et allait se heurter en hurlant contre les murs, la fenêtre et la porte. Sylvaig se maudit de ne pas avoir pensé que le crochet magique pouvait aussi ouvrir automatiquement les coffres. Après tout, il s'agissait certainement d'un crochet du voleur qui pouvait crocheter toutes les serrures. La pensée qu'il devait y avoir un moyen d'empêcher l'objet d'ouvrir tout et n'importe quoi l'effleura brièvement, bientôt supplantée par l'impression qu'elle allait mourir de froid. Le vent glacial se calma et le cœur se contenta désormais d'irradier du froid. La renarde avait à peine relevé ses yeux larmoyants que la porte s'ouvrit brusquement. Elle tourna la tête et vit que Loki se tenait dans l'encadrement. Effrayée et oreille rabattue, elle recula jusqu'au coffret qui contenait le cœur d'Ul. Celui-ci lui glaçait le dos autant que la présence de l'alce voleur. « Tiens donc, Tu as réussi à sortir de la chambre que j'avais généreusement mise à ta disposition, lui dit-il d'un ton mielleux. Où j'étais prisonnière, précisa Sylvec d'une voix blanche. Invitée, corrigea Loki. Mais ce n'est qu'une question de formulation. Je constate que tu as aussi mis la main sur le cœur d'Ul. J'ai toujours apprécié la ruse dont faisaient preuve les renards. Tu ne fais pas exception à la règle. As-tu pris une décision ? Une décision ? Répéta-t-elle un peu perdue. Concernant le fait de laisser la vie sauve à tes amis ou de la leur prendre, lui rappela l'as d'une voix de velours. Oh ! La renard n'avait pas oublié cet odieux marché qu'il lui avait proposé un peu plus tôt. Elle n'avait pas l'intention de donner à Loki ce qu'il voulait, mais elle ne voyait toujours pas d'échappatoire. Le temps que je t'ai laissé ne s'est pas encore écoulé, de toute façon, reprit le voleur. Tu as le temps. Aucun des choix ne me convient, lâcha fraîchement Sylvègue. Quel dommage, susurra Loki. Je vais devoir choisir moi-même. Je ne te laisserai pas faire, gronda la renarde. Vraiment ? Tu ne peux rien contre moi pourtant. Peut-être pas pour le moment. Une idée venait de germer dans l'esprit de la vanne, tellement dangereuse qu'elle s'efforçait de démêler les pour et les contre en faisant fi de la terreur que lui inspirait l'as. Il s'approcha d'elle. Paniquée, elle cessa de réfléchir, plongea la main derrière elle dans le coffret de la Reine des Neiges et s'empara du cœur d'Ul. Elle hurla de douleur lorsque le froid mordit sa peau. « Que fais-tu ? Tu as perdu la tête ?» Loki, l'as voleur, celui qui trompait son monde, ne parvenait pas à dissimuler sa surprise. Il n'avait pas prévu qu'une telle chose puisse se produire. La jeune vanne, faisant de son mieux pour ignorer la douleur, ramena le cœur sur son ventre et laissa son corps absorber le pouvoir de l'hiver. Elle crut sa dernière heure arriver et se demanda brièvement comment la femme qui s'était fait appeler la Reine des Neiges avait réussi à assimiler un tel pouvoir alors qu'elle n'était qu'humaine. Elle ressentait un grand froid dans son propre cœur, puis le mal diminua progressivement, tandis que tout son être irradia à présent un pouvoir glacial. Elle releva son visage baigné de larmes verglacées nées de la douleur, pour planter fermement son regard dans celui de l'as, tandis que ses oreilles à présent blanches se dressaient en marque de défi. La renarde se sentait particulièrement puissante tout de suite, malgré le mal que cela lui occasionnait. Elle savait que les as possédaient plus de pouvoir que les vannes, mais elle ne pensait pas que le fait d'absorber le cœur de l'un d'entre eux pouvait faire une si grande différence. La jeune fille puisa dans ce sentiment un courage renouvelé. « Et maintenant » gronda-t-elle avec provocation. « À ton avis, suis-je toujours aussi impuissante face à toi ?» Born n'eut à se débattre avec ses pensées qu'une petite heure. Bientôt, une ombre se découpa dans l'encadrement de l'entrée. « Frod !» l'accueillit nonchalamment Siegfried qui avait ouvert les yeux. « Siegfried !» répondit fraîchement l'arrivant. « Que fais-tu ici ?» Le demi-elfe détailla le chasseur qui venait de pénétrer dans la hutte. Celui-ci était mince et visiblement beaucoup plus âgé que Siegfried. Born ne savait pas qu'il existait des elfes au visage marqué par la vie. Maintenant, il en prenait conscience. Quelles que soient les vicissitudes auxquelles avait été exposé le dit Frod, certaines semblaient avoir été terribles. Et cela n'adoucissait pas son expression sèche, méfiante et hautaine. Le visage du chasseur se fit plus dur encore lorsqu'il l'aperçut, et le jeune homme en conçut une certaine crainte.
« Et pourquoi as-tu laissé un humain entrer sur mon territoire ?» ajouta Frod en montrant les dents comme une bête sauvage.
« Ne te laisse pas aller ainsi à la colère !» tenta de l'apaiser l'aîné de Bord. « Il ne s'agit pas d'un simple humain, c'est un demi-elfe. »«
Un bâtard !» lâcha dédaigneusement le chasseur.
« Mon petit frère !» précisa Siegfried le plus naturellement du monde, à la grande surprise du petit frère en question.
« Ton !»
Frod s'interrompit en roulant des yeux effarés. Il resta une seconde bouche bée avant de reprendre contenance et de lâcher interrogateur.
« Ton père ou ta mère ?»«
Ma mère !» répondit paisiblement Siegfried.
Dame Doéline a eu une affaire avec un humain ?
La surprise du chasseur était intense. Bord le sentait bien. Pour sa part, il n'osait pas dire un mot. Non seulement parce qu'il était intimidé par le vieil elfe encore plus revêche que Siegfried, mais aussi surpris par le fait que son aîné le présente comme son petit frère. Il n'espérait même plus une chose pareille, et voici qu'elle se produisait enfin. Il n'en revenait pas, mais n'osait pas s'en réjouir ouvertement.
Me laisseras-tu en venir au fait ? S'enquit Siegfried après quelques secondes de silence.
Tu n'as pas répondu à ma première question, précisa le vieux chasseur en s'asseyant face au frère de Bord
et à une distance respectable du jeune homme, comme s'il risquait de le contaminer avec une maladie quelconque.
Je suis venu chercher une parcelle de ton savoir, expliqua succinctement Siegfried.
Vraiment ?
J'aurais besoin que tu me révèles l'emplacement de la demeure de Loki.
Tiens donc, commenta le chasseur. Et pourquoi ferais-je une chose pareille ?
« En souvenir du temps où j'étais ton élève, » tenta Siegfried.
Ah, lâcha Frode.
Bord se demanda si cette interjection était de bonne ou de mauvaise augure. Les sentiments de l'ancien maître de son aîné lui semblaient encore plus difficiles à lire que Siegfried lui-même. Il en venait à se demander si cette conversation allait vraiment quelque part et espérait que son frère ne leur faisait pas perdre leur temps précieux. Mais les deux elfes ne paraissaient pas pressés. Ils restèrent longtemps à se jauger l'un l'autre.
« Ce n'est pas une simple information que tu me demandes, »
reprit finalement le chasseur.
« Cela dépend de quel point de vue on se place, » rétorqua doucement Siegfried. « Ce n'est rien de plus qu'une indication à mes yeux. »
« Une indication sur les secrets d'un naze, » précisa le chasseur. « Ce n'est pas quelque chose que l'on dévoile à la légère. Je vais devoir te demander pour quelle raison tu as besoin de connaître le lieu de résidence de Loki. »
Siegfried resta silencieux quelques minutes. Bord commença à s'inquiéter de ce qu'il pourrait dire. « Serait-ce très prudent de parler du cœur d'Ul à un inconnu ?» Il secoua intérieurement la tête. Frode n'était un inconnu qu'à ses propres yeux. En revanche, son frère le connaissait bien et depuis fort longtemps. Il décida de calmer une nouvelle fois ses inquiétudes, de faire confiance à son aîné et de continuer à rester le plus silencieux possible. Il craignait que le moindre bruit de sa part ne mette de nouveau l'irascible chasseur en colère et il ne voulait pas que son frère soit fâché après lui pour avoir réduit ses efforts à néant.
« Loki a enlevé une de nos protégées, » finit par dire Siegfried, « et nous voulons la récupérer coûte que coûte.
» émit Frode d'un ton sceptique. « Est-ce une humaine, elle aussi ?»«
Non, c'est une jeune vanne.
»
acquiesça l'ancien maître.
« Cela reste très risqué de s'aventurer sur les terres du voleur et de s'interposer entre les chamailleries entre vanne et as, même pour un but aussi louable que de sauver une pupille, si tel est vraiment ce que tu recherches. »«
C'est le cas, » insista le grand frère de Bord. Pour aller la tirer des griffes de Loki, nous sommes prêts à tout.
Je vois dans ton regard que tu es effectivement prêt à tout,
remarqua le chasseur.
Tu dois vraiment beaucoup apprécier cette petite.
Siegfried concéda un bref hochement de tête pour acquiescer.
Eh bien soit, reprit Frode. Je veux bien t'indiquer comment trouver la demeure de Loki, le voleur. Mais ce n'est pas un secret que je suis prêt à dévoiler en présence d'un bâtard humain.
Il s'agit de mon frère, grinça l'aîné de Bord.
J'ai du mal à te reconnaître, déplora le chasseur. Tu étais le premier à dénigrer les humains lorsque tu vivais encore parmi nous.
Je ne les apprécie toujours pas, précisa Siegfried.
Pourtant, il semblerait le contraire, insista Frode.
Il n'est pas un simple humain, comme je te l'ai déjà dit. Il s'agit de mon frère, et il a une part elfique,
tenta de se justifier l'ancien élève.
Il n'en a pas moins une part humaine.
Elle est largement contrebalancée par sa part elfique, rétorqua Siegfried.
Ce n'est jamais suffisant, asséna le chasseur. La part d'humain le corrompt.
Le frère de Bord se sentit fort agacé d'entendre cette phrase, dont il avait souvent répété des variantes lui-même de la bouche d'un autre. Il se sentait tiraillé entre le fait d'obtenir des informations le plus rapidement possible et son amour-propre qui lui soufflait de ne pas abandonner l'argumentation aussi facilement que cela.
C'est bon, intervient le demi-elfe. Sig, ce n'est pas grave, je vais attendre dehors, d'accord ?
Siegfried se débattit encore intérieurement pendant quelques secondes, puis il adressa un hochement de tête en signe d'assentiment à son cadet. Ce dernier se glissa hors de la cabane avec un certain soulagement. L'atmosphère elfique était trop pesante pour lui. Une fois qu'il eut disparu, le chasseur lâcha un son bref qui pouvait s'apparenter à un rire.
« Même lui connaît sa place, » déclara-t-il à Siegfried.
« N'aurait dit plus jamais une chose pareille, » le menaça l'aîné. « Mais parlons plutôt de Loki. J'ai besoin de savoir ce que tu sais. »
Soit. »
Frode se dirigea vers un coin de la pièce et ouvrit un tiroir. Il en sortit un étrange ausculté de gui en forme de crochet.
« Je te présente le crochet du voleur. Il est de sa propre fabrication et il permet de dissiper ses illusions. Personne ne peut trouver ses terres sans cela. C'est un as présomptueux. Il ne tient pas le compte de ses petits artefacts. Tous ses serviteurs en sa demeure en possèdent un. Bien sûr, je ne dis pas que lui en dérober un est une chose facile. Il y a de nombreuses années, un parent à moi a quand même réussi à se procurer celui-là. Il semblerait que Loki n'ait jamais remarqué qu'il lui en manquait un. Depuis, nous autorisons quelques incursions sur ces terres protégées d'illusions pour chasser, lorsque le gibier se fera railleurs.
C'est stupéfiant, commenta platement Siegfried.
Tu montres mal l'enthousiasme, lui signala le chasseur.
Et pourtant, je suis vraiment impressionné.
Bref,
balaya Frode.
Comme je te connais, que je connaissais Doéline et que ton affaire paraît importante, j'accepte de te le prêter le temps qu'il faudra. Mais n'oublie pas de me le rendre ensuite, sinon je te chasserai jusqu'au bout de la terre s'il le faut.
Bien sûr,
acquiesça Siegfried.
Je m'attendais pas à ce qu'il en soit autrement.
Très bien, je te le confie.
Le frère de Bord examina le petit objet. Il sentait effectivement qu'il en émanait une forme de pouvoir. Il trouvait que Loki était bien provocant d'avoir gravé ou fait graver du gui sur ces petits objets. Pour ce qu'il en savait, le monde entier connaissait l'histoire de Loki qui avait provoqué la mort de l'Asbaldr à cause du gui. Le voleur était de nature fanfaronne et sans aucun scrupule. Cela ne l'étonnait donc pas outre mesure. Il était conscient que son cadet et lui avaient affaire à forte partie. Mais cela avait déjà été le cas lorsqu'il s'était retrouvé face à Ull dans sa forêt d'If. Celui-ci était un illuminé et Loki un fourbe. Aussi dangereux l'un que l'autre, chacun à leur manière.
« Je te remercie, » déclara pompeusement Siegfried. « Comment cet objet fonctionne-t-il ? »
« Ce n'est pas compliqué. Même un humain pourrait y arriver. Regarde le bout incurvé du crochet. Pour dissiper les illusions, il suffit de le tourner. »
« Simple, en effet.
Ne laisse pas le... ton frère mettre la main dessus. Cet artefact est sacré pour ma famille. »
« Cet objet ne me quittera pas, » lui assura Siegfried en décidant de laisser passer le fait que Frode avait encore failli traiter son cadet de bâtard. « Maintenant, dans quelle direction devons-nous nous rendre pour retrouver la demeure de Loki ? »